100% Aiglon. 100% Aiglon. Benjamin Pierson.
100% Aiglon, c'est parti. Une heure pour débriefer le dernier match de l'OGC Nice hier face à Toulouse. Défaite 2-1 au goût amer. Nice perd des places au classement et est désormais 5e. Alors faut-il tirer la sonnette d'alarme? J'ai autour de moi des experts pour en parler. Celui qu'on ne présente plus, je pourrais le comparer à Martin Bulka. Humble travailleur, constant et dévoué pour l'équipe, monsieur Baquier.
Mais beaucoup plus petit. Oui. Dans tous les domaines.
En même temps, c'est dur d'être plus grand que Martin Bulka.
C'est vrai.
C'est dur.
Je pense que si il lève un bras, il fait déjà mal taille avec son bras. Quoi.
Okay. Elle est arrivée sur la pointe des pieds, mais va faire grand bruit. Peut-être la cousine de celui qui manque au milieu de terrain de l'OGC Nice, un certain Pierre Lesmelou, que j'adore. Léandra Iacono, journaliste Nice Matin. Bonsoir Léandra.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et
bonsoir.
Enfin, le Tom Louchet de l'équipe. Il est jeune, plein d'ambition et mouille le maillot, sa première aujourd'hui. Bonsoir Fabio.
Bonsoir.
100% Aiglon, c'est parti. Bon, nous on plaisante, on a le sourire, mais l'OGC Nice c'est un peu compliqué en ce moment. Quelle est votre analyse globale? Parce que c'est vrai que pendant 60 minutes, Nice a été plutôt bon, en tout cas pas trop mauvais. Il y a eu cette chute au bout de la 60e, 65e, à partir de l'égalisation. Quelle est votre lecture globale du match, Maxime? Je te laisse commencer.
Ben, c'est un peu ça. Il y a eu deux matchs, en fait, et je suis assez d'accord de dire que la première heure est assez intéressante. Il y a ce changement de système, il y a cette liberté offensive qu'on a ressentie, des Aiglons assez inspirés, et puis patatras, quoi. Il y a cette erreur individuelle qui enraye la machine, et puis c'est un peu l'histoire du football, des dynamiques, une équipe qui se remet à y croire, une autre qui se met à douter, et tu prends le deuxième dans la foulée, et encore une fois on a des Aiglons qui ont été incapables derrière de réagir. Donc à la fois il y a du positif, je trouve, et on va pouvoir en parler. Farioli qui n'est pas resté figé dans ses certitudes avec son système et qui a donc changé ses plans, hein. Lui qui disait que quand on a un plan A qui marche pas, il faut un meilleur plan A. Là, hier, il avait quand même sorti un plan B et ça a plutôt bien fonctionné. Mais malheureusement, c'est aussi son coaching qui a entraîné la chute. Donc, il y a du bon et du moins bon. Autant j'avais trouvé le nul contre Clermont vraiment nul et une prestation collective beaucoup trop poussive. Autant là, j'ai plutôt aimé la prestation collective d'ensemble jusqu'à l'égalisation. Et c'est des erreurs individuelles qui ont finalement... plombé l'après-midi.
Cinquième match sans victoire pour l'OGC Nice. Fabio, quel est l'état d'esprit au lendemain de la défaite? Tu me disais presque que tu en rigolais, tu en riais jeune en quelque sorte.
Bah oui, je suis très triste parce que à chaque fois c'est pareil. On fait un bon début de saison et là 2024 arrive et on s'écroule n'importe comment. Alors que tout marchait bien, on avait la réussite et là on n'a plus la réussite et ça va plus du tout.
Comment tu l'expliques peut-être d'un point de vue supporter, ce manque de réussite?
Je pense qu'on s'est trop reposé sur justement cette réussite qui nous souriait jusque-là. Et il s'est trouvé que on n'avait plus du tout de réussite. Donc le coach n'a sûrement pas su se renouveler et ça nous coûte très cher aujourd'hui.
Justement, le coach, tu es pas trop favorable en ce moment. Tu es un petit peu fâché, on va dire, contre Francesco Farioli. On va en parler dans quelques instants, Fabio. Mais globalement, ce match, est-ce qu'il représente pas en fait ce que c'est l'OGC Nice, capable de bonnes choses, la solidité, en tout cas pendant 60 minutes, et maladroit devant, même derrière sur certaines prises de balles, à l'image de Romain Perrault qui rate son dégagement, son contrôle. Faudrait savoir ce qu'il a tenté de faire. Est-ce que c'est pas l'image en quelque sorte de ces deux derniers mois?
C'est totalement ça. Mais après, si Evan Guessant met son face à face, tout ça on n'en parle pas. Donc
voilà. C'est la fameuse réussite.
Voilà,
qui fuit le gym, ce manque d'efficacité qui coûte cher. Mais comme le dit Fabio, quand t'as pas beaucoup de marge pendant autant de temps, mais que ça tourne du bon côté, le jour où ça veut pas sourire, on voit le résultat depuis un mois. Ce manque de confiance, de réussite, autant ça allait dans le bon sens dans la première partie de saison, là c'est plus compliqué. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit ce que les gens ont dans le ventre, que ce soit les joueurs, le staff. Donc c'est un moment qui est intéressant, je trouve. Cette séquence-là, personne ne peut prédire l'avenir, mais de ces turbulences, de ces difficultés, est-ce que le gym saura renaître ou est-ce qu'il s'effondrera? En tout cas, c'est un moment qu'on vit qui est intéressant, je trouve.
Peut-être que c'est la faute de Patrice Albaganti. Depuis qu'il n'est plus là, Nice s'écroule totalement.
Oui, mais il est de retour.
Il est de retour, vendredi. Ça y est. Bon, bah, vendredi, victoire Montpellier, vous pouvez mettre.
On peut mettre un billet.
On peut mettre un billet, parier avec modération. Léandra, tu es arrivée en cours de saison, si je ne me trompe pas, pour suivre l'OGC Nice. Quelle est ta lecture sur la trajectoire du gym depuis ces quelques mois? C'est vrai qu'on a l'habitude, historiquement, hein, d'un gym qui s'écroule. On connaît les années 70 avec trois titres de champion d'automne avant de finir deuxième et huitième. Quel est ton avis sur la question, sur ces derniers mois un peu difficiles?
Bah, je pense que Nice était en ultra réussite, on l'a dit. Après, moi, ce qui me marque en tout cas, c'est que l'équipe avait beaucoup de stabilité. Et au final, après la défaite à Nantes, on voit que dans les têtes, ça a commencé à un peu cogiter. Et puis, il y a eu des absents, des blessés, les partants à la canne. Et je pense que ça aussi, ça a créé une sorte de déséquilibre. Parce que la méthode Farioli, je pense qu'elle est très exigeante. Et elle réclame aussi beaucoup de repères, finalement, dans la façon de jouer. Et les joueurs qui ont remplacé n'avaient peut-être pas ces repères-là. Ceux qui sont partis et qui sont revenus ne les ont peut-être pas récupérés. Je pense qu'il y a aussi un manque de liberté dans la façon de faire. Quand ils s'attaquent, ils pensent toujours à la façon dont ils vont défendre. Et c'est hyper exigeant physiquement, mentalement. Et je crois que là, on est un peu au creux de la vague par rapport à ça.
Quelle est ta lecture, justement? Tu as souligné quelque chose d'intéressant. C'est que depuis Nantes, depuis ce match perdu face à une équipe qui, honnêtement, n'est pas folle. Hier, a perdu contre Metz, si je ne me trompe pas.
À la maison, oui.
À la maison contre Metz.
A beaucoup de mal à la maison, Nantes. Il restait sur deux victoires à l'extérieur, je crois. Et nous, on perd à la Beaujoire, alors que ça sera peut-être la seule victoire de la saison de Gourvennec.
C'est l'histoire du gym. Dijon, une année descend avec 4 victoires, une à 2 contre Nice. Mmh. Bon, j'ai l'impression que c'est le symptôme OGC Nice. Je voulais rebondir avec cet aspect-là, Léandra. Comment ça se fait que les joueurs, selon toi, n'arrivent pas à rebondir après ça? Est-ce que c'est la faute de l'entraîneur? Est-ce que c'est ces derniers qui ont peut-être surfé sur une vague positive et n'arrivent pas à se relever? Quel est ton point de vue?
En fait, je pense que ce qui arrive maintenant, on l'a vu un peu venir depuis le début de la saison, dans le sens où Nice, dès le moment où ils ont été menés, n'arrivait pas à revenir. Donc ça démontre soit un manque de personnalité, ou alors une incapacité justement à trouver les ressources. Et puis, en fait, on a l'impression que le jeu de Nice était un petit peu... Voilà, on gardait le ballon, on était un peu dans un confort, entre guillemets. Et puis dès qu'on n'a plus ce confort-là, eh bien, on ne sait plus comment faire. Et j'ai l'impression que Nice a perdu un peu le fil par rapport à ça. Et Francesco Farioli, peut-être qu'il ne sait pas, ce que disait Fabio, pas assez réinventé à ce moment-là, quand on a commencé à voir des petits signes de faiblesse. Parce qu'après Nantes, ils rebondissent. Après Le Havre, ils rebondissent. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une défaite, ils ont rebondi derrière. Mais là, ce n'est plus le cas.
Effectivement, ça devient assez difficile. On enchaîne les mauvais résultats. Maxime, tu voulais...
Un match à l'autre, et puis au cœur du même match. Tu étais au stadium, on a vu le même match. Et encore une fois, des Aiglons qui sont plutôt bien dans leur rencontre, et on sent un petit grain de sable qui vient enrayer la machine, et derrière, cette incapacité à réagir.
C'est ça, il y a une déstabilisation parfois, que dès que ça devient un peu plus compliqué finalement. Alors est-ce que ce sont les cadres qui ne répondent pas présents? Est-ce qu'il y a un doute qui s'installe aussi, parce que là, la période est mauvaise, et du coup, contrairement à Toulouse qui faisait une mauvaise première mi-temps entre guillemets, eux, parce qu'ils ont l'énergie, parce qu'ils ont la dynamique, et ben forcément ça va beaucoup plus vite.
Mais plus qu'un doute, Fabio, tu soulignais sur les réseaux sociaux où tu partages ton avis, le fait que les joueurs manquent un petit peu d'envie, et c'est un avis que j'ai largement vu sur les réseaux sociaux en discutant ce matin avec des amis supporters. Est-ce que tu penses que les joueurs manquent un peu de hargne, entre guillemets, de mentalité niçarde?
Ben, c'est totalement ça, parce que j'ai l'impression que dès que ça va pas, dès qu'ils sont menés justement, ou même dès qu'il y a 0-0, en fait, ils font des passes par l'arrière, Todibo vers Dante, vers Bard qui revient sur Todibo, enfin, tout le temps c'est ça, et même quand on est mené, ben, les joueurs ils jouent de la même façon, c'est-à-dire ils lâchent pas les chevaux, à part hier pendant les 5 dernières minutes peut-être, mais c'était pas, franchement,
pas
j'aime
suffisant.
Pas du tout ça.
Ça manque de folie, c'est ça. C'est ce que.
À part le derby, finalement, en Nice-Monaco, oui. On a senti qu'il y avait une forme de révolte qui se créait. Alors, il y avait ces événements contraires, ce carton rouge, cet arbitrage. Peut-être que ce soit un derby
et
aussi, mais
qu'on soit à domicile,
on avait
aussi
senti une révolte d'arriver à égaliser. On s'est même un peu enflammé, et là, ça coûte sans doute la défaite au final. Mais pour le reste des défaites, effectivement, à partir du moment où le gym est mené, à partir du moment où ça s'enraye, on sent pas une prise de conscience, ou en tout cas une envie d'aller chercher un résultat, alors que peut-être ça vient du staff, peut-être ça vient des joueurs, sûrement un peu des deux. Sur le terrain hier, à part Thuram qui a essayé dans son attitude d'aller relever ses partenaires, d'applaudir, on n'a pas vu, donc je pense pas que ce soit un manque d'envie, parce que tu peux pas a priori être sur un terrain et ne pas avoir envie d'aller gagner, mais peut-être un manque de personnalité, un manque de leadership. J'ai, à part Thuram hier, j'ai pas vu des Aiglons se réunir quand ils ont commencé à prendre l'eau, à encaisser ces deux buts pour se dire allez, il reste du temps, on va y aller, on va y arriver. C'est peut-être ça, ouais, qui manque. Mais ça doit venir aussi du staff. C'est peut-être aussi un petit peu tendre dans cette énergie qu'ils peuvent transmettre aux joueurs.
Et du capitaine, justement, après le match, il a pas peut-être suffisamment montré le fait que la situation était peut-être un peu compliquée, pas gravissime. On joue pas le maintien non plus. Ça va être l'objet de nos tops et nos flops, justement, les joueurs, le capitaine Dante un petit peu en difficulté. C'est dans quelques instants sur France Bleu Azur.
Demain matin à 9h, France Bleu Azur, à votre service.
Bonjour.
Arnaud Visconti.
Quel est votre petit déjeuner idéal ? Petit ou maxi déjeuner pour débuter la journée ? Sucré, salé ? Allez, levez le voile sur vos préférences du matin. Partagez vos recettes avec nous. Quel est selon vous le petit déj parfait ? C'est quoi vos habitudes et traditions ? Vous nous appelez, on en parle demain.
Retrouvez les bons plans et les réponses à vos questions sur l'application ici et francebleu.fr.
L'univers de Jean-Jacques Goldman, comme si c'était avec lui. Le tribute 100% Goldman, les Goldmen, sont à la Palestre au Canet, vendredi 22 mars, avec France Bleu Azur. Le chanteur Alain Stévez, véritable sosie du chanteur préféré des Français. Retrouvez les tubes de Jean-Jacques Goldman, du live, des musiciens. Les Goldmen, vendredi 22 mars à la Palestre au Canet. Gagnez vos places sur France Bleu Azur.
France Blasio, il est 18h18, un point sur vos conditions de circulation. Message de la part de notre animateur Quentin Lacrome qui me dit que la route de la Vésubie entre la Colmiane et Saint-Martin-Vésubie est rouverte en alternance. Merci Quentin pour les précisions. Quelques ralentissements enfin au niveau de la voie Matisse pour rejoindre Acropolis. Vont rouler au pas, ça bouchonne également quai des États-Unis. Ça c'est pour Nice. J'ajouterai quelques ralentissements à Villeneuve-Loubet, route nationale 7 pour rejoindre le centre-ville. Vous êtes par choc contre par choc. En cas de ralentissement, vous nous appelez 04 93 82 03 04.
100% Aiglon. 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, toujours avec mon trio de choc, Emers Faye, Kevin Hanin, David Elwick. un super trio et le quatuor va être reformé. Willy veut nous donner son avis sur les derniers résultats du gym. Bonsoir Willy.
Bonsoir Benjamin, bonsoir Maxime.
Salut Willy.
J'ai oublié les autres qui étaient là aujourd'hui.
Léandra et Fabio.
Oh, bonjour Léandra.
Bonsoir.
Et Fabio.
Et Fabio.
Eh bah oui. Fabio. Tony, Willy, pardon, tu voulais réagir sur la défaite du GIB.
Alors, la semaine dernière, je vous disais que Farioli était trop rigide dans son schéma de jeu. Ça n'a pas changé pour moi, mais je trouve pas normal que les joueurs ne se prennent pas en main et disent pas à l'entraîneur « Bon, ton système il marche plus, il faut qu'on fasse autre chose ». Aujourd'hui, pourquoi les... En début de saison, c'est très bien. L'entraîneur a su les embarquer avec lui, effectivement les résultats étaient là, et le système que prônait Farioli marchait. Aujourd'hui, on voit que ça marche plus. Mais les joueurs se cantonnent à appliquer bêtement les consignes du coach. C'est peut-être à eux à se prendre en main et à dire à Farioli « Bon, ça va plus, il faut qu'on fasse quelque chose ».
Justement, Maxime, en parler, le fait que Youssouf ait frappé et marqué contre Montpellier, ça a gêné Farioli parce qu'il sortait entre guillemets des sentiers qu'avait battu entre guillemets Francesco Farioli. C'est l'analyse que tu as. Willy, j'en profite pour te demander, bon, ton top, à mon avis, ce sera Evan Guessant. Peut-être ton flop de la rencontre.
Le flop de la rencontre, je dirais Boga. Boga, parce que il a joué à un poste qui n'était pas le sien, et il m'avait l'air complètement perdu sur le terrain. Il n'a pas apporté grand-chose. Après, c'est vrai que le flop, on peut mettre un flop général sur l'équipe, parce que il n'y a pas eu la révolte qu'on attendait. On mène 1-0 à la mi-temps sur un but très chanceux. Et en deuxième temps, on s'est dit bon ben ils vont peut-être ils vont peut-être essayer d'aller mettre le deuxième, mais non, on se contente de ce seul but. Et quand on encaisse l'égalisation, ben il n'y a pas de révolte. Donc moi je dirais l'équipe dans son entier.
Bon, on espère en tout cas que l'équipe va se relever, que tes prochains appels, Willy, seront positifs. En tout cas, merci de la pertinence de tes avis. Bonne soirée, Willy.
Bonne soirée, messieurs.
À bientôt, Willy. Vous restez avec nous, messieurs, dames. On va évoquer les tops de la rencontre.
100% Aiglon, les tops.
Bon, les tops, je pense que ça va aller très vite. C'est un attaquant, grande taille, qu'on a reçu dans 100% Aiglon. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi bon. Evan Guessant, messieurs, qu'avez-vous pensé, messieurs, dames, qu'avez-vous pensé, désolé, Ilandra, de la performance d'Evan Guessant? Je me tourne vers le supporter que tu es, Fabio.
Bah franchement, moi, depuis le début de la saison, pardon, je le trouve énorme parce que dos jeu, il est injouable. Et même quand il a le ballon dans les pieds, il casse les lignes. Et bah, le problème, c'est que ça ne suit pas derrière. Mais il nous amène vraiment beaucoup de dangers. Et c'est, je pense, le seul joueur qui remue vraiment devant. Surtout hier, parce que hier, on n'a pas trop vu Boga. Et bah, c'était le seul, quoi.
Dis-moi si je me trompe, hein, mais je vois un peu en lui un Balotelli. Dans le sens où il a ce côté assez costaud, on a du mal à le bouger. Techniquement, il n'est pas très beau à avoir joué, mais il a une certaine puissance, une certaine vitesse. Est-ce que c'est l'analyse que tu partages ou je me trompe complètement et je peux laisser la place à Maxime Bakier?
Non, je pense que t'as raison, parce que c'est vrai que Balotelli, on dirait qu'il est vraiment inarrêtable. Et bah, c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir un avant-centre comme ça dans l'équipe.
Donc pour toi, c'est le meilleur joueur. Tu voulais aussi souligner la performance du Suisse, Jordan Le Ton, bah, oui. Je te vois sourire.
Oui, parce que depuis le début de la saison, je le critique beaucoup. Et bah, hier, il m'a fait plaisir parce qu'il n'allait pas tout le temps vers l'arrière. Et pour une fois, il prenait ses responsabilités et il allait devant. Donc, j'aime beaucoup.
Mais est-ce que ce n'est pas peut-être la concurrence de Valentin Rosier, certes qui est blessé, mais le fait qu'ils se disent, bon, derrière moi, il y a quelqu'un qui a ce profil offensif. Est-ce que ce n'est pas la concurrence de Rosier qui le pousse un peu dans ses retranchements et à se surpasser?
Bah, j'espère, parce que ce qu'il nous a proposé jusque-là, c'est vraiment pas bon du tout. Donc si Valentin Rosier peut lui permettre de s'améliorer, bah, je prends.
Rosier d'ailleurs, Maxime, là pour le prochain match?
Non, a priori, Farioli nous disait qu'il serait de retour au plus tôt pour la semaine PSG Coupe de France et Lens, donc dans une dizaine de jours. Surtout le système, et on va en reparler encore, mais qui a permis de libérer l'Otomba, parce qu'on le sent pas très à l'aise dans les consignes de Farioli par rapport au rôle des latéraux, qui sont censés plutôt amener le surnombre au milieu, alors que l'Otomba, lui, c'est le profil classique du latéral qui aime prendre son couloir, on l'avait vu avec Didier Digard. Donc là, au moins, oui, dans ce système-là, on le sent bah, plus à l'aise. On lui dit, c'est toi qui dois prendre le couloir, c'est toi qui dois l'animer. Et on l'a vu monter, on l'a vu prendre ses responsabilités. Donc, pour l'Otomba, je pense que c'est un système qui lui conviendrait mieux que le 4-3-3 avec les consignes du staff.
Léandra, ton top, est-ce que c'est Guessant, l'Otomba ou peut-être un autre?
Guessant. Pas ouais. De scoop. Non, vraiment, je l'ai trouvé très bon. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul Aiglon qui a vraiment apporté des munitions offensives, entre guillemets. Même si Mofil a été embêtant pour les défenseurs toulousains parce que beaucoup de mouvements, il a pas mal glissé quand même, je sais pas. Ce qui se passait avec ses crampons, ça l'a gêné.
C'est à peine le seul, hein. Il y en a eu plusieurs qui ont glissé sur cette pelouse un peu grasse.
Mais non, Guessant, j'ai beaucoup aimé et je trouve que, voilà, comme l'a dit Fabio, il casse des lignes. Son occasion aussi, vraiment, il se la crée tout seul. Finalement, il passe entre 3-4 Toulousains. Malheureusement, il n'y a pas la finition, c'est toujours un peu le petit bémol, ce qui fait la différence avec Balotelli.
C'est ça. C'est pour ça que la comparaison, c'était peut-être un peu osé, j'avoue.
Non, mais dans le profil, il a quelque chose de. Il dégage cette puissance, et Fabio a raison, c'est un attaquant qui bouge devant, qui bouge les lignes, qui bouge les défenseurs, et qui rechigne jamais à aller au contact, à garder ses ballons, qui fait tout ce que Mofi n'arrive pas forcément à faire, lui, dans cette position d'attaquant. Et hier, il était plutôt replacé sur le côté droit, notamment en position défensive, donc ça veut dire qu'il peut être performant dans l'axe, à droite. C'est vraiment la bonne surprise de cette saison, Evan Guessant.
Guessant, à qui Léandra a mis 7 dans Nice Matin, puisque tu es journaliste Nice Matin depuis quelques temps, mais en tout cas tu suis l'OGC Nice depuis 2-3 mois à peu près, c'est ça Léandra. Donc Guessant, c'est la meilleure note. En revanche, on a pas mal de chats à fouetter, malheureusement.
100% Aiglon, les flammes.
Enfin, plutôt des Aiglons, en l'occurrence, parce que notre gym est en difficulté. Maxime, tu me disais, en tout cas, selon toi, que le plus inquiétant, en quelque sorte, c'était Dante, du haut de ses 40 printemps.
C'est peut-être un peu sévère de mettre Dante comme flop.
Ah, mais c'est toi qui l'as mis, c'est
pas moi. Mais c'est moi qui l'ai. Et j'assume.
Jette pas la pierre.
Je le trouve un peu inquiétant, Dante, que ce soit sur le terrain et dans ce qu'il dégage, un petit peu emprunté en ce moment. Alors, il a eu cette suspension. On le sait que quand t'as 40 ans, t'as besoin de rythme. Et déjà, contre Clermont, il était passé au travers, mais c'était son retour de suspension après 2 semaines sans jouer. Tu peux te dire qu'il est. À cet âge-là, il faut aussi retrouver les sensations. Ça avait été déjà le cas après la trêve hivernale où son premier match avait été un peu compliqué. Mais encore une fois, hier, il a toujours ce qui est d'habitude sa force, d'avoir 1 mètre d'avance. Là, il a, je trouve, 1 mètre de retard dans les duels. Et ça met tout le monde en difficulté parce que derrière, il faut compenser. Donc, ouais, moi, je trouve que Dante, en ce moment, et il incarne aussi peut-être ce passage à vide. Et puis, on parlait du leadership juste avant la pub. Hier, je l'ai pas trouvé entraînant. J'ai pas vu un capitaine qui, ne refuse la défaite, va remobiliser tout le monde. J'ai plutôt vu Thuram essayer d'incarner ce rôle-là. Donc, j'espère que Dante, il est dans un bon état d'esprit. J'en doute pas, mais je trouve pas que les signaux dégagés en ce moment par Dante soient très entraînants pour tout le monde.
À l'instar de ce dégagement dans le traditionnel ou presque, long ballon sur le côté gauche, je crois que c'est Guessant qui tente de l'intercepter, en tout cas de le récupérer, et finalement ça file en touche. Léandra, est-ce que toi c'est ton top principal? Rosario en l'occurrence a eu 3. Oui, ton flop, oui. C'est un lapsus. Bien triste. Non, effectivement, Pablo Rosario, tu l'as mis 3 dans Nice matin. Dans cette défense à 3, il était sur le côté droit. Fautif sur le premier à moitié, mais surtout sur le deuxième où il est pas assez dur au marquage.
Bah exactement, on va dire que Dante, c'est plus pour la prestation globale et un petit peu la vision qu'il nous a donné de son match. Mais Rosario, pour le coup, on a vraiment des cartouches pour dire, bon là, il s'est raté 2 fois. Au final, la première, le positionnement de Dante pose aussi question. Tout le bloc est un peu déséquilibré. La deuxième, en revanche, il doit absolument pas laisser Gbo se retourner comme ça. C'est un peu... voilà. En fait, pour le moment, il a de l'agressivité. Mais là, elle est passée totalement... enfin, elle s'est évaporée, quoi. C'est hallucinant premier, dans la surface.
C'est ça, mais ouais. Même sur le premier, pour l'avoir revu, c'est vrai qu'il est trop loin.
Il est trop loin.
Il manque d'impact, ouais.
Effectivement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'un Rosario un peu rugueux, même qui soulève les foules à la Lanz Riviera. Là, c'est un peu plus compliqué. Fabio, quel est ton flop, toi? Est-ce que c'est Romain Perrault aussi, dont l'entrée a causé malheureusement des déboires? Et c'est peut-être le côté, comment dirais-je, le côté social, entre guillemets, de Farioli qui lui a coûté cher parce qu'il a fait entrer Perrault pour faire tourner. Finalement, c'est Perrault qui le met dans l'embarras. Ton flop, Fabio?
Je dirais Dante. Parce que le rôle d'un capitaine, justement, c'est, voilà, il doit reprendre son équipe, il doit aller pousser un max. Et là, bah, rien. C'est le problème et je pense que voilà, depuis sa suspension, il y est plus du tout, parce que je l'avais pensé aussi, c'est quand quand t'as cet âge-là, tu dois vraiment jouer toutes les semaines, tous les 3 jours, toutes les semaines, sinon tu perds le rythme et après tu n'y es plus, t'es cuit.
Tu as trouvé Dante en difficulté grandement. Beaucoup disent que il faudrait déjà songer à le remplacer en vue de la saison prochaine. Bon, ça me fait mal au cœur de penser ça. Est-ce que toi aussi, ça doit te briser le cœur, lui qui est là depuis 2016?
Je pense que la question, elle doit se poser peut-être avant la fin de la saison, parce que s'il continue à nous sortir des prestations comme il a fait hier, ça va plus être possible.
Il faut quand même garder une vision d'ensemble de sa saison
sûr,
qui reste
plutôt bonne, attendez.
Voire très très bonne.
Ah bah oui.
Nice garde la meilleure défense de Ligue 1.
J'allais dire, on est en train
balayer.
De...
Ouais. Patrice, qui était à la place de Fabio il n'y a pas si longtemps, enchaînait les tops Dante, quoi, en se disant c'est quand même assez incroyable de le voir à ce niveau. Mais parce qu'il enchaînait les matchs et il était dans son rythme, dans sa routine. Peut-être qu'effectivement, à cet âge-là, c'est un... Tu peux plus facilement perdre le fil, que ce soit physiquement, dans l'intensité. Il est en fin de contrat au mois de juin. Il a évoqué cette prolongation de contrat qui est loin d'être signée. Ça a été évoqué avec Florent Ghisolfi. Chacun sait ce que l'autre veut, a priori. Mais on va attendre au maximum pour voir si c'est la meilleure idée. Lui, de toute façon, Dante nous avait dit qu'il voulait jouer encore une saison au minimum. De préférence à Nice, et on a tous envie de le voir encore une saison sous le maillot du gym. Après, il faut que ça reste un joueur de très haut niveau, ce qu'il est encore. mais il reste une dizaine de matchs.
En plus, on ne peut pas reprocher à Fabio de ne pas aimer Dante, parce que sa coque de téléphone, c'est le capitaine Dante. Donc, on ne peut pas reprocher à Fabio de ne pas aimer notre capitaine. Léandra, tu voulais intervenir sur le cas du Brésilien.
Ouais, parce que moi, je trouve qu'en fait, il ne faut pas oublier que j'ai l'impression que la défense niçoise, elle est un peu plus exposée aussi. Parce que je trouve que dans l'équilibre, Nice n'a plus la même solidité. Parce qu'ils sont un peu, je dirais, les fesses entre deux chaises. C'est-à-dire que pour marquer un peu plus, ils s'exposent, entre guillemets, un peu plus. Mais du coup, ils ont du mal aussi à gérer, en fait, quand ils perdent le contrôle des situations, quand ils perdent le ballon. Et je trouve que Dante, il est aussi un peu plus exposé. Todibo, il se retrouve aussi à défendre parfois à Lyon. Il défendait toujours en un contre un des situations qui sont plus difficiles à gérer.
Sur Nouama, ouais, de mémoire. Mmh. Ouais.
Donc pour moi, oui, Dante est un peu plus en difficulté, mais c'est aussi tout le bloc qu'il est.
Fabio, est-ce que tu as un autre flop, pourquoi pas, à nous partager, puisque tu n'as pas beaucoup exprimé ton avis là-dessus? Est-ce que c'est un flop global, peut-être?
Voilà, un flop général. L'attitude et le coach aussi, flop.
Ben, on va en parler dans quelques instants, hein, de Francesco Farioli. Est-ce que c'est un soldat qu'il faut sauver, notre entraîneur italien, qui, depuis quelques semaines, ne se remettant pas en question? Là, il l'a fait, il s'est remis en question avec ce passage avec la défense à 3. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? On en parle dans quelques instants avec notre bande d'experts sur France Bleu Azur.
Demain, 6h-9h.
Bonjour.
Thomas Debono.
Demain matin encore, cash ou cadeau de retour sur France Bleu Azur, hein, le jeu qui vous permet de gagner à coup sûr. 6h45, 7h45 et 8h45 pour gagner jusqu'à 100€ cash ou des invitations pour les plus beaux événements de la Côte d'Azur. Soyez au rendez-vous dès demain matin. Trois chances de gagner au cash ou cadeau. On vous attend sur France Bleu Azur dans le 6-9.
Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli ICI, ICI. Le Brice créatif.
Imaginez la nouvelle campagne de communication de l'association Aide pour engager la nouvelle génération dans la lutte contre le VIH.
Ça s'adresse à qui?
Tout le monde est invité à participer et c'est gratuit.
Qu'est-ce qu'on gagne?
La gloire de voir sa campagne diffusée pour de vrai et aussi 15 000€ à partager avec l'ensemble des gagnants.
On s'inscrit où?
Brief et inscription jusqu'au 28 mars sur le site des Mademoiselle Peach Awards. Mademoiselle-peach-awards.com.
Un concours ouvert à tous, soutenu par Radio France Publicité et Média Transport.
Le Salon du Bien-être Bio et Thérapie de Mandelieu, c'est du 8 au 10 mars au Centre Expo Congrès. 160 exposants, 60 conférences, dont Géraldine Garance, Jacques Martel, Ernesto Ortiz, Annabelle de Villedieu. 3 concerts et des tombolas quotidiennes. 3€ l'entrée, parking gratuit, restauration bio. Soyez zen et venez les 8, 9 et 10 mars au Salon du Bien-être à Mandelieu. Info, salonbien-être-mandelieu.com.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
France Bleu Azur, il est 18h33, on jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Sachez que la route de la Vésubie entre la Colmiane et Saint-Martin-Vésubie est rouverte en alternance. Précision de Quentin Lacrome, notre animateur. Quelques ralentissements à Villeneuve-Loubet pour rejoindre le centre-ville. Vous êtes pare-choc contre pare-choc. Et enfin, quelques ralentissements mineurs sur la voie Matisse et en centre-ville de Nice. 04 93 82 03 04 pour vos infos sur la route. Aiglon de retour pour évoquer l'actualité de l'OGC Nice, toujours avec mon trio magnifique, Darius Vitanin, Thierry Botteac, Jérémy Pied et le quatrième, Alexis Bozetti. Daniel n'est pas content, il nous appelle au standard. Daniel, je suis certain que tu as beaucoup de chats à fouetter, pour reprendre l'expression que j'ai déjà employée tout à l'heure. Tu es vraiment en colère. Est-ce que tu peux exprimer justement ton mécontentement, Daniel? Bonsoir.
Bonsoir messieurs, merci de m'accueillir dans votre très belle émission.
Messieurs, oui, dames, ce soir,
messieurs, dames. Daniel,
et on a Léandra avec nous.
Ah oui, il y a Léandra, que j'apprécie beaucoup sur Gym Tonic.
Merci beaucoup, ah, c'est gentil.
Mais tu l'apprécies encore plus sur France Bleu Azur.
Oui. Non, mais je suis pas en colère, c'est parce que en début de saison, on vantait les mérites de l'entraîneur, et maintenant, on y tombe tous dessus. Je veux dire, c'est pas l'entraîneur qui tire à côté des cages. C'est pas l'entraîneur qui attaque pas, c'est pas l'entraîneur qui sait pas faire les dribbles. Faudrait peut-être un peu revoir tout ça, non? Si à l'entraînement, ils font pas des séances supplémentaires pour des tirs au but ou des choses comme ça. Bon, je vois encore la dernière action, chaud, il saute après le ballon. il a même pas le timing pour reprendre le ballon de la. Enfin, moi, je sais pas, mais.
Daniel,
faut tout leur dire, c'est pas, ce sont pas des poussins quand même.
Justement, Daniel, on a peut-être un peu le même avis sur la question. C'est que ça fait trois coachs qu'on a, donc Lucien Favre, Didier Digard et Francesco Farioli. Est-ce que la faute, c'est pas un moment les joueurs? Parce que ça fait, ils ont, entre guillemets, saccagé le travail de Lucien Favre, ou en quelque sorte, ils n'ont pas été au niveau quand Lucien Favre était là, alors qu'il avait fait un super passage. Avec Digard, ça s'est bien passé. Farioli, il y a eu du bon et du moins bon. Est-ce que c'est pas peut-être les joueurs qui choisissent un peu leur période?
Mais bien sûr. Et l'an dernier, c'était pareil. On a vu une attaque qui était faible, avec Nicolas Pépé, tout ça, qui joue. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais c'est toujours le même, c'est récurrent, quoi. Vous avez Mofi, c'est un joueur qui va en profondeur, etc. Mais il peut pas se remettre en question de jouer un peu dans la surface. Mais je sais pas, moi, de provoquer un peu, d'essayer d'avoir un pénalty. On n'a pas de tireur de coup franc, on sait pas tirer les corners. Enfin, je veux dire, c'est.
Ah, mais le problème, Daniel.
Cette attaque, combien elle coûte cette attaque? Aligner les millions qu'il y a en attaque.
Et si on compte Diop plus Mofi plus Laborde, effectivement, ça commence à chiffrer. Et d'ailleurs, Daniel, tu me le disais en off, c'est que tu es agacé par le fait que certains joueurs soient souvent blessés. Enfin, c'est.
Bah, bien sûr. Mmh. Mais bien sûr, on comprend
football,
pas pourquoi.
Malheureusement. Mais le problème, Daniel, c'est que effectivement, tu dis, les Aiglons doivent se prendre en main, doivent prendre les responsabilités. Mais quand ils l'ont fait, ils ont été un petit peu rattrapés par la patrouille. Youssouf qui frappe de loin à Montpellier, finit au fond, mais derrière, il est un petit peu critiqué, tensé par son entraîneur, qui estimait qu'il y avait de meilleures solutions, qui en plus trouve que derrière, ça a donné un mauvais exemple et de mauvaises idées à ses partenaires. Farioli qui avait encore une fois avant le match à Toulouse, là, après Clermont, a stigmatisé l'individualisme de certains. Donc, quand le staff veut un cadre et que tout le monde reste absolument dans le cadre et suive à la lettre les consignes, ça n'incite pas, j'imagine, à prendre des initiatives et du coup à prendre le risque peut-être d'être derrière écarté, parce que Youssouf, depuis son but à Montpellier, il a été un petit peu déclassé. Alors, il y a eu la suspension, il y a eu le geste d'humeur à Lyon. Là, il est de retour contre Montpellier, mais quand le staff n'encourage pas la prise de risque, peut-être que ça finit par effectivement à annihiler un peu tout le monde.
On va avoir l'avis de Fabio dans quelques instants, mais merci beaucoup Daniel d'avoir appelé.
Merci à vous.
Très bonne soirée.
À bientôt Daniel.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt, Daniel. Je te voyais réagir, Fabio. Je regardais. Tu n'étais pas forcément d'accord avec l'avis de Daniel sur Farioli. Tu étais un peu mitigé là-dessus. Quel est ton point de vue? Est-ce que la passe actuelle est forcément la faute de l'entraîneur ou c'est plus global?
C'est pas forcément de la faute de l'entraîneur, mais c'est l'entraîneur qui fait jouer les joueurs. Donc, c'est-à-dire que ce que les joueurs font, c'est l'entraîneur qui le demande. On l'a vu avec Youssouf qui frappe à Montpellier. L'entraîneur n'était pas content. Après, ça lui a souri parce qu'on a eu la victoire et tout. Mais voilà, ça passe par là. Nos joueurs, ils jouent avec la peur après. Et justement, Youssouf, il fait ça, il fait son petit tir. Et après, il se fait. Même si c'est de l'humour, il se fait tacler par le coach. Et après, il joue plus, même s'il est suspendu et tout. Et puis, tous nos joueurs, il n'y en a aucun qui tire, par exemple, des 25 mètres. Et ça, c'est à la demande du coach, parce que le coach, il veut qu'on construise les actions, les cils et là. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup voir des frappes de loin, des lourdes de Todibo, de je sais pas qui
de
veut.
De Guessant, Claude Maurice aussi, qu'on ait les capacités. Mais est-ce que c'est pas frustrant, justement, quand on est supporter, de ne pas voir les joueurs un peu lâcher les chevaux?
C'est très frustrant parce qu'il y a des matchs où, franchement, on s'ennuie. Moi, j'ai envie de voir l'action, j'ai envie de voir des buts, des frappes, des arrêts, des tacles, du football, quoi.
Est-ce que t'es encore derrière Farioli?
Oui.
Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive derrière Francesco Farioli, ou parce que certains, pour le coup, sont complètement désolidarisés, un peu tôt à mon goût, mais et au tien visiblement vu ta réaction. Mais pourquoi est-ce que tu crois encore en Farioli?
Parce qu'il est jeune, c'est une de ses premières vraies expériences, et parce que surtout il est vraiment relié avec les dirigeants, avec Florent Ghisolfi, avec Fabrice Boquet et même, je pense, Jean-Pierre Hivert. Donc, si tout le monde lui fait confiance, je vois pas pourquoi on le laisserait pas encore exercer.
Continue. Est-ce que tu penses qu'il faudrait voir un nouveau système? Là, on a vu cette défense à 3. Est-ce qu'il faudrait changer de ce 4-3-3 et passer, pourquoi pas, en 4-4-2 en fonction du niveau des joueurs, de ce que les joueurs sont capables de proposer? Est-ce que tu as des idées pour révolutionner, en quelque sorte, pour avoir de nouvelles, peut-être de... de nouvelles choses, voire de nouvelles choses en quelque sorte.
Je sais pas si c'est adapté, mais je pense qu'on devrait jouer avec deux attaquants de pointe, avec Mofi et Guessant à côté, vraiment collés, et à droite Shaw, à gauche Boga, et après on voit la défense, on la touche pas, mais je pense que ça pourrait amener plus de diversité devant, ce qui nous manque en ce moment.
Et il y a le paradoxe aussi des milieux terrains, on va revenir avec Leandra et Maxime, c'est qu'on en a plein des milieux terrains. On a Diop qui est à l'infirmerie, certes. On a Claude Maurice. On a Rosario. J'en ai oublié carrément. Kevin Durable, Sanson, Boudaoui. On en a plein. Et finalement, il n'y a aucun qui demeure indiscutable, demeure vraiment au top niveau. C'est presque regrettable en quelque sorte, Fabio. Quel est ton point de vue aussi sur les milieux de terrain, sur ce qu'ils apportent?
Justement, je pense qu'ils apportent pas assez. Il n'y a pas assez de passes qui cassent les lignes, de tentatives de frappe. Il joue trop vers l'arrière, vers Todibo. On l'a vu hier, même Thuram, il essayait des fois de faire des petits et sonner la révolte un peu, mais il revenait tout le temps par manque de solution vers la défense.
Léandra, tu as acquiescé les propos de Fabio.
Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas normal que ton meilleur milieu, Kefren Thuram, il en soit toujours à zéro stat, zéro passe, zéro but. Nice a besoin de milieux qui marquent. Alors, il y a Claude Maurice qui de temps en temps tente une frappe. Ça a failli marcher contre Toulouse. Mais ce n'est pas assez, ils doivent faire plus dans la création, dans la créativité, ils doivent faire plus pour créer des mouvements aussi, parce que ça, j'ai l'impression qu'ils sont toujours au même endroit, mais là aussi c'est peut-être une question de confiance et de liberté qu'on leur laisse ou pas.
Il y a quand même eu, je trouve, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le coach qui semblait un petit peu rigide et figé dans son système, hier, il a tenté quelque chose, la défense à 3, le replacement, parce que Fabio disait, je veux voir Guessant et Mofi ensemble alignés. Hier, quand le gym avait le ballon, c'était le cas. Boga venait se recentrer dans l'axe et avait beaucoup de liberté pour animer le jeu. Alors, il s'est un peu perdu, il a pas été très efficace, mais Guessant et Mofi étaient finalement sur la même ligne. Et c'est comme ça que le but arrive. Le débordement de Guessant, Mofi qui est là pour le reprendre avec de la chance, donc il a tenté quelque chose, ça avait plutôt bien fonctionné à Brest, déjà ce système à 3, il était repassé à 4 derrière. Est-ce que là on a, malgré la défaite, malgré voilà, cette mauvaise série, est-ce qu'on a peut-être les ingrédients du rebond? Moi j'ai l'impression que, comme le disait Leandra tout à l'heure, il a réussi à avoir des résultats en posant un cadre qui finalement convenait bien à cet effectif. Il a mis les joueurs phares, les leaders dans une forme de confort, avec une continuité, ça a très bien fonctionné. Et derrière, je me souviens qu'à Clermont, il avait sorti Melvin Barr à la mi-temps pour faire rentrer Romain Perrault. Il a essayé d'instaurer peut-être une nouvelle concurrence, de relancer certains joueurs. Et tout ce qui faisait la force de cet OGC Nice a commencé un petit peu à s'effriter. Ça a peut-être un petit peu déstabilisé tout ça. Et on le sait, c'est vraiment des détails, le sport de très haut niveau. Et on le sent un petit peu dans cet entre-deux. Est-ce qu'il faut revenir à ce qui faisait la force du gym en tout début de saison? Tu remets tes cadres dans ce système très, très figé. Ou est-ce que, comme hier, tu tentes de surprendre davantage tes joueurs, l'adversaire? C'est pour ça que c'est intéressant, la période qu'on vit, je trouve.
Et justement, le fait de faire du social, de remplacer Melvin Barr par Romain Perrault, qui n'avait plus joué depuis un petit bout de temps, je crois que ça fait 3-4 matchs qu'il n'était pas entré en jeu, Maxime, si je ne me trompe pas, qu'il avait été titulaire une fois de la saison, si je ne me trompe pas,
en
également,
coupe,
Romain Perrault,
à Montpellier, ouais.
À Montpellier, donc ça fait peu. Est-ce que, Fabio, le fait d'avoir voulu faire du social, d'avoir voulu changer, chambouler, est-ce que tu penses que ce n'est pas un problème d'avoir voulu modifier, en quelque sorte, tout ça?
Concernant
le match d'hier, oui, le fait de faire entrer Romain Perrault et de déstabiliser un peu l'équipe.
Melvin Barr, depuis le début du match, il était vachement sollicité, je trouve. Et ça percutait beaucoup de son côté. Et on était en plein temps fort de Toulouse, si je ne me trompe pas. Et sortir Melvin Barr, qui gérait plutôt bien jusque-là, pour faire entrer Romain Perrault à ce moment-là précis, je trouvais ça vraiment que c'était une erreur. Surtout qu'il rentre, il n'est pas chaud, il glisse et ça nous coûte un but.
Mais ils sont expliqués.
À l'inverse de Calas Martinel Nobel de Toulouse, l'entraîneur qui a refusé de faire entrer Soiseau lors des temps faibles. Il a fait entrer dans des moments un peu plus intéressants, un peu pour le lancer d'une meilleure façon, l'arrière gauche chilien. C'est un peu ça, peut-être, la différence. C'est le passage qui sera nécessaire pour être à un niveau supérieur pour Farioli.
C'est la vie du football aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tout va bien, tu fais des choix et ils fonctionnent. Et là, quand c'est une période un peu moins bien, eh bien, peut-être que il y a 4 mois, ça aurait fonctionné à merveille. Mais là, on sent qu'il est peut-être un peu moins inspiré, il a un peu moins de flair. Mais aussi, c'était pas forcément un coach qui, dans son coaching, était déjà très pertinent depuis le début de la saison. C'est peut-être sa marge de progression.
Vrai, il tâtonne depuis le début de saison entre sortir les joueurs qui sont avertis, ça avait un petit peu heurté dans le vestiaire, donc derrière il s'est un petit peu repris. On se souvient le premier match à la maison contre Lille, Thuram, Laborde qui sortent dès la 55e. On s'était tous regardé, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, c'est un jeune entraîneur, et donc, du coup, on a à la fois les avantages, cette fraîcheur, cette spontanéité, cette envie de s'investir à fond dans le projet, et à la fois, les défauts, le manque d'expérience dans certaines situations. Donc, il faut lui laisser le temps à Francesco Farioli. En plus, rien n'est terminé, on est toujours que cinquième, donc tout va bien.
C'est quoi le projet, justement, la saison prochaine? Ligue des Champions, Ligue Europa, Conférence League, on en parle avec nos spécialistes dans 100% Aiglon.
Ça commence.
Du 1er au 10 mars, à Nice et Beaulieu-sur-Mer, le festival Femmes en scène célèbre ses 15 ans. 15 ans de création au féminin, de coups de cœur artistiques, de rencontres et d'émotions. Cette année, 10 lieux, 16 spectacles et 3 expositions vous attendent. Danse, théâtre, performance, rencontres. Eva Rami, la comédienne, est marraine de cette édition. Le festival Femmes en scène, femmesenscène.com, en partenariat avec France Bleu Azur.
Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche.
On a tous un copain mélomane qui se prend pour un jukebox.
France Bleu Collector, chaque soir de la semaine, dès 23h.
France Bleu Azur, il est 18h47, on fait le point ensemble sur vos conditions de circulation, les ralentissements classiques avec la voie Matisse qui bouchonne en direction d'Acropolis, quelques ralentissements au centre-ville de Nice, notamment boulevard Victor Hugo. Je termine enfin à Villeneuve-Loubet, quelques ralentissements au niveau de la RN7 pour rejoindre le centre-ville, 04 93 82 03 04 en cas de ralentissement sur la route.
100% Aiglon. 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, toujours avec Maxime Baquier, Landra Iacono et Fabio, supporter de l'OGC Nice. On évoquait tout à l'heure le débrief, on parlait de nos tops, de nos flops. Faut-il sauver le soldat Farioli? Mais le soldat Farioli va-t-il nous emmener l'année prochaine en Ligue des Champions? Les choses, en tout cas les possibilités sont légèrement compromises. Nice est 5e, 40 points, 1 point de retard sur Lille qui nous a doublé, Lille 4e, première place qualificative pour la Coupe aux grandes oreilles. 2 points de retard sur Monaco, 6 pour les surprenants brestois de Pierre Lesmelo et Eric Roy. On a presque mal de se dire que c'est d'anciens niçois qui permettent à Brest de finir, en tout cas d'être à la deuxième place du classement. Mais derrière, pire encore, Lens 6e est à 1 point, Marseille 7e est à 4 points, Rennes revient. Fabio, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Coupe d'Europe l'année prochaine?
Non. Parce que même s'ils sont sur une super dynamique, toutes ces équipes-là que tu as citées, Lens, Rennes, Marseille, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont lâcher quand même. Parce que surtout que le calendrier de l'OM aussi, j'ai vu, il n'est pas évident. Celui de Lens, je pense pas non plus. Donc, on a encore une petite marge. Mais après, Dante l'a dit, on a utilisé tous nos jokers. Donc maintenant, il va falloir se reprendre et ça commence vendredi prochain.
Il y a un Lens-Nice samedi 16 mars prochain à 21h.
Lens joue Brest et Nice là dans les.
Ouais, Brest et Nice là. Et puis ils vont à Lille aussi. Donc ils ont des matchs compliqués là qui s'enchaînent avant de jouer contre Le Havre, Metz et Clermont où ça sera un peu mieux. Mais effectivement, 3 matchs clés pour le RC Lens. Mais je le disais, ce match Lens-Nice dans 2 semaines qui est crucial en quelque sorte, peut-être pas crucial, mais très important pour la suite selon toi, Fabio.
Oui, parce que ils peuvent nous passer devant. Déjà, ils peuvent nous passer devant la semaine prochaine, mais en plus, s'ils nous battent, là, ça va devenir un peu compliqué à rattraper tout ça.
Comment tu expliques cette difficulté de l'OGC Nice depuis quelque temps à peut-être passer la vitesse supérieure? Est-ce que c'est quelque chose de symptomatique à l'OGC Nice? On a l'habitude chaque année que ça revienne. Je pense à l'époque 2016-2017 ou il y a encore 2 ans avec Christophe Galtier. Comment tu expliques que ça aille un petit peu moins bien? Est-ce que c'est frustrant? J'imagine oui quand on est supporter.
C'est très frustrant, mais je pense que c'est dû peut-être à la pression. Les joueurs, ils sont pas forcément programmés au début de la saison pour jouer aussi haut. Et au final, ils se retrouvent là, deuxième, et tout le monde parle d'eux, et ils sont obligés de faire des résultats toutes les semaines, et ça leur porte préjudice.
Est-ce qu'on se reconnaît pas peut-être dans d'autres équipes? Moi, je pense à Brest. On se dit que Brest, En tout cas, on a envie d'être Brest, dans le sens où ce sont des joueurs peut-être moins talentueux, mais qui se battent davantage avec leurs armes, avec un stade Francis Leblé qui est chauffé à bloc, là où la Lens Riviera, un petit peu moins, ça fait penser au stade Duré. Est-ce qu'on rêve pas un peu d'être à la place de Brest?
Bah, Brest, c'est une équipe avec des joueurs tous presque gratuits ou vraiment pas chers, et c'est des joueurs qui se donnent à fond pour le collectif, pour leur entraîneur, pour leurs supporters. C'est pas des joueurs qui vont choisir leur match. Ils vont tout donner à chaque match. Même hier, j'ai vu le match. Ils étaient en difficulté, mais ils n'ont rien lâché. Et ça les amène où ils sont aujourd'hui.
Ouais, à la deuxième place du classement, là où Nice est cinquième. Léandra, je vais me tourner vers toi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la fin de saison de l'OGC Nice? Ou selon toi, c'est comme Fabio, un petit peu passager, et puis ça reviendra?
Ce qui est sûr, c'est que la dynamique, pour le moment, elle est alarmante. Après, on va dire que la vérité d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas la même que dans une semaine ou dans deux semaines. Parce que dans le foot, tout va très vite. Le match contre Montpellier, je pense que c'est déjà un moment charnière. Parce que là, de passer à côté contre Clermont, contre Toulouse, et puis après, tu passes à côté contre Montpellier alors que tu les as battus en coupe assez facilement, là, ça deviendra assez problématique, surtout qu'il y a des gros matchs derrière. Donc, c'est alarmant, mais il reste 10 matchs, ils ont encore le temps d'inverser la tendance, de repartir sur quelque chose de positif. Et moi, je pense que vraiment, c'est pour le coup un déficit de confiance actuellement.
Est-ce que selon toi, les équipes derrière, que sont Lens, Marseille et Rennes, sont mieux armées que l'OGC Nice pour jouer la Coupe d'Europe ?
Mieux armés, oui, parce qu'ils sont habitués en fait à jouer la Coupe d'Europe entre guillemets. Lens, l'année dernière, on programmait qu'ils allaient craquer toute la saison, et au final ils sont allés vraiment au bout du bout, ils ont tenu. Donc ce sont des équipes qui connaissent en fait ce sprint final, ces exigences en termes mental, en termes physiques. Donc pour moi, oui, ce sont des équipes qui sont armées, ça m'inquiète un peu, mais l'OGC Nice n'a pas perdu, a encore un petit peu son destin en main entre guillemets. Comme l'a dit Maxime, à un moment, voilà, ils sont encore cinquième. Ils ont un quart de finale de Coupe de France à jouer. Donc, il ne faut pas non plus être trop alarmiste.
Et justement, je vais être un petit peu peut-être provocateur volontairement. Mais est-ce que l'OGC Nice mérite sa place en Ligue des Champions? Est-ce que ça ne serait pas mieux de laisser, en tout cas, que d'autres équipes jouent à la place de l'OGC Nice Ligue des Champions? Parce qu'on a l'impression que les joueurs choisissent les matchs et ne sont pas bons toute la saison. Suis provoquant volontairement, Maxime.
Tu perds la boule, Benjamin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et voilà. A priori, quand tu as joué, quand tout le monde a affronté tout le monde, tu seras à la place que tu mérites à la fin de la saison. Pour l'instant, tu as fait 13 matchs de très bon niveau qui t'ont permis de rester deuxième pendant un moment. Et là, ça fait 10 matchs que tu prends un. Tu as eu un rythme de Ligue des Champions ou de Champions sur la moitié du parcours et un rythme de relégable sur l'autre moitié. Donc, c'est normal que ça baisse. Moi, je pense qu'il y a un problème, et c'est peut-être pas un hasard si on n'arrête pas de dire Nice a du mal à passer les hivers. Il y a peut-être aussi un problème de gestion de ces moments-là, de culture de la gagne, de réussir justement à gérer une saison où t'es pas forcément programmé pour être aussi haut. C'est le cas cette saison. Autant quand Ineos est arrivé avec des grands discours, on s'est attendu à très vite être dans le top 5, ce qui n'a pas forcément été le cas. Autant là, on s'attendait pas à être deuxième. Et c'est ce que Farioli répète depuis 2-3 semaines en disant qu'on s'était habitué à ça, mais en fait, il faut se souvenir qu'en début de saison, c'est allez, top 6, on serait déjà très content. Donc on est encore dans l'objectif, mais il faut que le club progresse aussi, je pense, dans cette gestion de ces moments-là. Et c'est un peu Todibo qui disait ça hier, ça. Finalement. Il dit là, il faut qu'on joue comme une équipe qui n'a plus rien à perdre. Donc ça veut dire que tu as peut-être joué ces dernières semaines comme une équipe qui avait quelque chose à perdre, avec cette peur-là de laisser filer cette opportunité à force de dire, et nous les promet, hein, c'est la saison ou jamais pour aller chercher cette Ligue des Champions, parce que t'as pas de Coupe d'Europe, parce que la concurrence est pas là. Eh ben, tu te tétanises peut-être un petit peu, et c'est cruel, mais c'est au moment où tu lances ce clip, l'Europe se joue maintenant, juste avant le derby, pour mobiliser tout le monde, que finalement, derrière, patatras, ça s'écroule un peu, et t'as pas gagné un match depuis, donc, voilà, encore une fois, Rennes est parti doucement, Marseille aussi, mais dans le sprint final, c'est aussi là que tu vois ceux qui sont pas programmés, mais qui ont cette culture d'aller chercher les choses. On le disait encore la semaine dernière avec Victor, à Nice, il y a cette faculté à manquer des virages, quoi. Ces fameux virages qui peuvent te permettre de passer des caps, et c'est pour l'instant ça pêche encore un peu dans ces matchs importants.
J'allais dire, on en parle souvent, Maxime, à la rédaction, c'est vrai que l'OGC c'est un peu le club des actes manqués, la Coupe de France, Bâle, etc. Fabio, j'imagine que tu partages, toi, en tant que supporter, cet avis, c'est que dès qu'il y a l'opportunité de passer à la vitesse supérieure, au niveau supérieur, ça s'écroule.
Exactement, et depuis le début de la saison, on l'a vu pratiquement chaque semaine, à chaque fois, où il fallait vraiment prendre les 3 points pour se mettre bien, pour assurer la deuxième place, pour mettre les 3, 4, 5, 6e justement loin. Bah voilà, on faisait match nul ou on perdait. Et il se trouve que tous ces points perdus, bah aujourd'hui, là, ils nous coûtent très cher parce qu'on on a un seul point d'avance sur le 6e.
C'est ça.
Alors qu'au début, on se disait c'est pas grave, bah si, là c'est très grave. Là.
La situation est alarmante, Léandra ?
Alarmante, oui et non. Oui, parce que la dynamique est alarmante et 5 matchs sans victoire, 7 matchs sans victoire à l'extérieur, ça commence à faire beaucoup. Non, parce que Nice est encore 5e, parce que Rennes a perdu par exemple, donc ça veut dire qu'elles sont capables aussi, ces équipes-là, de faire des faux pas. Maintenant, il va vraiment falloir se réveiller et là, c'est le moment.
Ça commence par le prochain match, c'est vendredi 21h contre Montpellier. Match à suivre sur France Bleu Azur avec Maxime Baquet dès 20h30, c'est ça Maxime ?
Et avec Patrice Albert-Gentil, effectivement,
l'excellent,
dès 20h30.
Il est de retour de vacances, il est frais, il va nous amener
Toutes ces ondes positives là. Nous, on est un peu dans un marasme depuis qu'il est parti, justement.
Depuis qu'il ne met plus le doigt dans la pelouse pour voir si elle est bonne.
Il faut retrouver les bonnes habitudes et repartir de l'avant. Je note d'ailleurs que c'est le jour, l'année dernière, où il avait reçu son trophée d'ancien aiglon contre Montpellier, que c'était reparti avec Didier Digard. Alors, faut pas changer d'entraîneur, hein.
Non.
Mais faut retrouver sur un Nice-Montpellier un Patrice Albert-Ganty inspiré pour repartir de l'avant. Voilà, c'est peut-être ça la clé.
Bon, ça va être dur de gagner 6 buts à 1 contre ces Montpellierains qui ont fait match nul ce week-end. Ils ont pris 4 points sur les 5 derniers matchs. Montpellier d'Altamari avec une super attaque. C'est quoi l'enjeu de ce match, selon vous? Il nous reste quelques instants pour évoquer l'enjeu de ce match. Est-ce que c'est retrouver la solidité défensive qu'on a perdue? Ou au contraire, aller marquer des buts, chose qu'on a beaucoup de mal à faire en ce moment? On a mis un but hier, 0 la semaine dernière, 0 contre Lyon, 0 contre Brest aussi il y a quelques semaines. Est-ce que c'est ça l'enjeu, marquer des buts ou retrouver la solidité?
Retrouver la solidité pour moi, parce que c'est ce qui a marché en fait depuis le début de la saison. Donc à un moment donné, c'est à partir du moment où il a voulu basculer sur autre chose, un peu plus, que c'est là que ça a commencé entre guillemets à tergiverser, à être moins solide. Donc non, il faut repartir sur l'ancienne méthode, celle qui fonctionnait.
Maxime, ton avis est sur la question?
Tout à fait d'accord. Ouais, je pense qu'il y a un moment, là, il te reste 10 matchs. C'est plus maintenant que tu vas inventer une nouvelle animation offensive, réussir à faire super bien jouer ton équipe. Donc il faut maintenant revenir à ce qui faisait ta force, remobiliser tout le monde sur les ingrédients du début de saison, remettre Youssouf devant la défense. C'est les ingrédients qui ont marché, qui t'ont permis d'être deuxième jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On verra peut-être la saison prochaine avec un autre effectif, avec d'autres profils pour jouer mieux. Mais là, ouais, il est urgent de redevenir imperméable.
Fabio, c'est quoi l'enjeu de ce match? Marquer plus de buts ou en prendre moins?
On a vu qu'essayer de marquer plus de buts, ça ne marchait pas. Donc il va falloir, comme au début de saison, être très solide et marquer un but pour gagner 1-0 et s'assurer une victoire et un clean sheet, comme on le faisait si bien en début de saison.
Allez, on l'espère contre Montpellier. Il nous reste 50 secondes, messieurs, dames, pour les pronostics. Allez, hop, je me tourne vers Maxime Baquet.
1-0, c'est mon prono toutes les semaines, mais ça passe de temps en temps. Là, ça aurait pu à Toulouse, hein, mais ça l'a pas fait.
1-0 pour Maxime Baquet. Léandra?
0-0.
0-0. On te demande pas les buteurs, du coup.
Non.
Et Fabio?
2-1.
Ah, 2-1, plus de buts, les buteurs.
Evan Guessant et Gaëtan Laborde.
Evan Guessant et Gaëtan Laborde, tu nous perds un coup à boire si tu n'as pas un bon résultat. Voilà,
moi, je veux un coup de casque de Dante, qui me fasse mentir, qui nous fasse mentir.
Sur les coups de pied arrêtés, il faut, voilà. Là, c'est important.
Coup de boule de Dante, merci à tous d'avoir été avec nous sur France Bleu Azur. Bravo Fabio pour la première.
Merci beaucoup.
Félicitations, par contre, le sweat violet après avoir joué Toulouse, ça c'est faute de goût.
Il ne fallait pas dire ça.
Faut pas le dire, Maxime Baquet. Il va régler ses comptes dans quelques instants. Dans quelques instants, il sera à 19h, vos infos. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur France Bleu Azur.
100% Aiglon. 100% Aiglon. Sur France Bleu Azur.